c'est l'heure de votre voyage en Amérique latine, émission présentée par Béatrix et Eduardo.
Hombre, si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de su boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste, que no puedo conformarme sin poderte contemplar, ya que pagaste mal a mi cariño.
Bonjour et bienvenue à l'émission L'Autre Amérique sur les ondes de Radio Libre en Périgord, à Coulommiers-Chamiers et aussi de par le monde sur notre site internet. Cette émission est diffusée en direct tous les jeudis à 10h et rediffusée les mardis à 14h. Pour vous donner des informations sur le continent latino-américain, à mon côté, Béatrix. Bonjour Béatrix.
Bonjour Eduardo.
Et à la technique, Antoine. Au sommet de cette semaine, nous allons vous parler du Brésil, une réunion très intéressante d'ailleurs. Nous allons parler du Chili, problème avec l'extrême droite. Et nous allons parler aussi de Pérou où il y a une situation qui traîne depuis des années. Et si le temps nous permet, nous allons vous faire écouter une émission à garder dans les archives d'OPEAL envoyée par Radio Nationale d'Espagne. Voilà, donc je laisse la parole à Béatrix.
Oui, il s'agit du 19e édition du campement Terra Livre, Terre Libre à Brasilia. Des milliers d'autochtones se sont mobilisés du 24 au 28 avril à Brasilia pour réclamer l'homologation de nouvelles réserves sur leurs terres ancestrales à l'occasion d'un rassemblement annuel de membres de communautés indigènes venues de tout le Brésil. Le dernier jour, le président Lula a signé des décrets légalisant 6 nouvelles réserves autochtones, les premiers depuis 2018. Il s'agit du premier rassemblement de ce type à Brasilia depuis le retour au pouvoir du président Lula, qui s'est montré favorable à cette homologation, au contraire de son prédécesseur d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Au milieu des bâtiments à l'architecture futuriste de la capitale brésilienne, les autochtones arborent pour la plupart des tenues traditionnelles avec des coiffes de plumes majestueuses et des peintures corporelles. Nous avons passé une semaine à voyager pour venir ici et ce que nous voulons, c'est l'égalité pour tous les peuples autochtones dans tout le Brésil, a dit Paomari Iraki, 24 ans, le visage décoré de motifs tribaux. Les terres indigènes sont considérées comme un rempart contre la déforestation en Amazonie, causée par l'expansion des activités minières et agricoles.
Oui, mais on peut faire un petit tour dans l'histoire de la capitale du Brésil, n'est-ce pas ?
À Brasilia, en 1960. Le Brésil inaugure sa nouvelle capitale, Brasilia, surgit soudain au centre d'une croix tracée sur la poussière rouge du désert, loin de la côte, là-bas, très loin de tout. Elle était construite à un rythme hallucinant. Pendant 3 ans, ouvriers et techniciens ont travaillé coude à coude, nuit et jour, partageant travail, nourriture et logis dans cette fourmilière. Mais maintenant que Brasilia est achevée, c'est aussi la fin de cette fugace illusion de fraternité. Les portes se ferment d'un seul coup. La ville n'est pas faite pour les domestiques. Brasilia reste inaccessible à ceux qui l'ont bâtie de leurs mains. Ceux-là vont vivre entassés dans les bidonvilles qui poussent n'importe comment dans les alentours. Cette ville est la ville du gouvernement, la demeure du pouvoir. Il n'y a personne sur les places et les rues n'ont pas de trottoir. Brasilia est sur la lune. Blanche, lumineuse, elle flotte au loin, là-haut, au-dessus du Brésil, à l'abri de sa crasse et de ses folies. Ce n'est pas ainsi qu'Oscar Niemeyer, l'architecte de ce palais, l'avait rêvé. Lors de l'inauguration, Niemeyer est absent de la tribune.
Vous êtes bien dans l'écoute de l'émission L'Autre Amérique sur le son de Radio Libre en Périgord. Et nous allons parler d'un pays où l'extrême droite aussi fait une percée, n'est-ce pas, Béatrix?
Oui, au Chili, l'ultra-conservateur Parti républicain, opposé à une réforme du texte fondamental d'une nouvelle constitution, est arrivé en tête du scrutin. Il a remporté 35% des suffrages contre 29% pour la coalition de gauche soutenant le gouvernement de Gabriel Boric. L'extrême droite sera chargée de rédiger un nouveau projet de constitution pour remplacer celle héritée de la dictature d'Augusto Pinochet, selon les résultats officiels du scrutin communiqué dimanche 7 mai, 7 mois après le rejet d'une première proposition de changement lors d'un référendum. Après dépouillement des bulletins, le Parti républicain, classé à l'extrême droite, opposé dès le début à une réforme de la Constitution, a remporté 35% des suffrages contre 29% pour la coalition de gauche. Il s'agit du deuxième processus de réécriture de la loi fondamentale du pays. Le projet sera ensuite soumis à un référendum le 17 décembre de cette année 2023. La constitution actuelle, héritée de la dictature de Pinochet, est considérée comme un frein à toute réforme sociale de fond.
Oui, Et on peut faire aussi un retour dans l'histoire.
Un retour en arrière, en 73.
Le problème, c'est que la droite au Chili a toujours eu un pouvoir important, surtout dans les domaines économiques, et c'est pour cela que la droite, parfois, domine les médias, par exemple.
La presse ne décrit pas le réel, elle le façonne. Lorsque l'un de leurs adversaires parvient au pouvoir, les médias engagent le combat. Entretenir les imaginaires réactionnaires par le biais de productions décervelantes. Alimenter la rhétorique de l'affrontement. Dans ce domaine, le Chili constitue un cas d'école. La politique de l'information n'est pas considérée comme prioritaire lorsque les forces progressistes accèdent au pouvoir. L'expérience chilienne tente à montrer que lorsque elle pose ce problème, la gauche se trouve bien démunie pour le résoudre. Certains analystes du drame chilien ont pu voir dans cette carence une des causes de la déroute du 11 septembre 1973. Comment oublier en effet que la presse, la télévision et la radio furent aux mains de la bourgeoisie des instruments puissants pour mobiliser contre la tentative socialiste de vastes secteurs de la population? Des documents officiels ont dévoilé l'aide financière de la Central Intelligence Agency, la CIA, aux campagnes d'agitation que la bourgeoisie chilienne déclencha par sa presse et par ses divers moyens d'information pour amplifier, après l'élection d'Allende, les campagnes d'intimidation qu'elle avait lancées pendant la période électorale. La lutte contre la nationalisation de l'industrie du papier journal fut menée par El Mercurio, premier quotidien national lié au monopole du papier. La droite stocka le papier et organisa le sabotage de la distribution.
Je vais dire la légende de celui qui s'est enfui et fait les oiseaux des Andes se taire au cœur de la nuit. Le ciel était de velours, incompréhensiblement. Le soir tombe et les beaux jours meurent, on ne sait comment. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda?
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda?
Lorsque la musique est belle, tous les hommes sont égaux. Et l'injustice rebelle, Paris ou Santiago. Nous parlons même langage et le même chant nous lie. Une cage est une cage en France comme au Chili. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda?
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda?
Sous le fouet de la famine, terre, terre des volcans, le gendarme te domine, mon vieux pays arrogant. Pays double où peuvent vivre des lièvres et des pumas, triste et beau comme le cuivre au désert d'Atacama. Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda?
Comment croire aux pas pesants des soldats quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda?
Avec tes forêts de hêtres, tes myrtes méridionaux, ô mon pays de salpêtre, d'arsenic
et de guano. Mon pays contradictoire, jamais libre ni conquis, verras-tu sur ton histoire planer l'aigle des Yankees. Comment croire aux papes en des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux papes en des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Absent et présent ensemble, invisible mais trahi, Neruda, que tu ressembles à ton malheureux pays. Ta résidence est la terre et le ciel en même temps, silencieux, solitaire et dans la foule chantant. Comment croire aux papes en des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
Comment croire aux papes en des soldats, quand j'entends la chanson noire de Don Pablo Neruda.
La chanson noire de Don Pablo Neruda. Voilà, Jean Ferrat chante un éloge à l'autre, c'est-à-dire Pablo Neruda. Et avant, je vais vous faire part d'une exposition à La Part, n'est-ce pas, Béatrice ? La Part ?
La Part, oui, je crois, oui, c'est ça.
C'est une peintre qui fait des gravures sur Rosario Marrero, qui expose depuis lundi 8 jusqu'à 20 mai. Et c'est très intéressant, vous pouvez aller visiter de 14h30 à 18h30, voilà, à La Part.
Rue Arago.
Rue
Arago,
à Périgueux. Arago, exactement, à Périgueux. Et nous allons aborder un sujet aussi compliqué, délicat, au sujet du Pérou, n'est-ce pas, Béatrix ?
Oui, la révolte du pays profond. La destitution par le Parlement du président Pedro Castillo en décembre 2022 a plongé le pays dans le chaos. Inégalités sociales abyssales, disparités régionales, racisme, corruption endémique. Les raisons de la colère se superposent et se renforcent. Le Pérou a peu changé depuis la fin de la vice-royauté, il y a 200 ans, en 1821. Les élites de la capitale continuent de tourner le dos au reste du pays et de le mépriser, explique le juriste Diego Garcia. Lima vit dans une bulle sur la côte pacifique, loin des Andes, qui traversent le pays du nord au sud, et de l'Amazonie dans le Grand Est. Mosaïque humaine, le pays compte 55 peuples autochtones et presque autant de langues parlées. Dans la représentation imaginaire que se font les Péruviens de leur pays, il y a Lima, moderne, occidentale et peuplée de blancs, ce qui est faux. Ensuite, il y a les Andes, rurales, qu'habitent des indigènes archaïques. Et ensuite, la forêt sauvage et inexploitée, décrit l'anthropologue Guillermo Salas de l'Université pontificale du Pérou. La réalité est plus contrastée. Il y a plus de Péruviens qui parlent quechua à Lima que partout ailleurs dans le pays. La plupart des richesses minières, pétrolières et gazières du pays sont localisées dans les Andes et en Amazonie. Les jeunes autochtones font de plus en plus d'études, mais le racisme ronge la société. Au Pérou, parler une langue autochtone ou se vêtir d'habits traditionnels expose à être l'objet de discriminations dans les commerces ou à l'hôpital, à être maltraité dans les commissariats ou à se faire traiter de sale indien. Être d'origine autochtone expose, en somme, à se voir cantonné à un rôle de citoyen de seconde zone. Les mots « indien », « serrano » ou « coach » ou « cholo » désignent péjorativement indigènes, métis, paysans et provinciaux. Depuis 5 siècles, le Pérou est convoité pour les richesses de son sous-sol. Les multinationales installées dans le pays extraient du cuivre, de l'or, de l'argent, du fer, du zinc, du pétrole et du gaz. Tous les présidents élus depuis 40 ans ont été accusés de corruption. Les scandales à répétition et la corruption généralisée à tous les niveaux ont fini par miner la confiance générale à l'égard des institutions. Des millions de Péruviens, Quechua, Aymara, Amazoniens qui se disent du Pérou profond, Pérou profundo, veulent pourtant croire que quelque chose a bougé dans la société péruvienne. Nous voulons une vie digne.
Voilà, c'est musique des Andes, de Pérou. Et nous allons entendre aussi, comme on l'avait annoncé, un reportage envoyé par Radio Nationale d'Espagne, gardé dans les archives d'OPEAL, sur le Pérou à l'époque. Il y a 20 ans, c'était aussi un peu les mêmes problèmes actuels.
Un premier pas hacia un pays sin injusticias. Los conflictos armados en el centro y sur americanos durante las últimas décadas del anterior siglo han pasado a la historia como una de las etapas más oscuras de esa región. En Perú se calculan más de 23.000 muertes. Los responsables, el propio Estado y los grupos de oposición Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Cuando hace un año que se dio a conocer el informe final de la Comisión de la Verdad y de Reconciliación del Perú, el drama sufrido por ese país aparece nuevamente en otro informe de Amnistía Internacional.
Vamos a presentar un nuevo informe de nuestra organización, cuyo título es Perú, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, un primer paso hacia un país sin injusticias.
Fue el director de comunicación de Amnistía Internacional España, Miguel Ángel Calderón, el encargado de presentar a los integrantes de la rueda de prensa.
Para la presentación de este informe me acompañan en la mesa, por un lado, Nuria García, a mi izquierda, que es investigadora de Amnistía Internacional para América y una de las personas artífices del informe.
Amnistía Internacional considera que para avanzar hacia una verdadera reconciliación de la sociedad peruana después de 20 años de conflicto interno armado, es importante no solo poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sino poner en práctica un Plan Nacional de Derechos Humanos, de forma que se atiendan a las necesidades de derechos humanos del país de una forma integral y que en las políticas estatales se tenga en cuenta el aspecto de respeto, promoción y protección de los derechos humanos. ¿Qué está diciendo Amnistía Internacional que debe incluir este Plan Nacional de Derechos Humanos? Bueno, pensamos que prioritario debe ser la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad. En especial nos interesa el tema de investigar los 43 casos que la Comisión de la Verdad documentó, donde se han podido ya identificar algunos de los responsables de estas violaciones de derechos humanos. Estos casos fueron entregados a la Fiscalía hace un año. De estos 43 casos, solo 3 casos se han llevado a juicio hasta la fecha.
A mi derecha, Esperanza de la Cruz, víctima del conflicto, miembro del Movimiento de Mujeres de Perú, que nos dará un testimonio personal del conflicto que desgraciadamente se cebó con las capas más humildes y más pobres de la población.
En el 1980 al 90 voy a trabajar en la Organización Popular de Mujeres ya cuando empieza la crisis económica en Perú. Nosotros ayudamos a los profesores, como no tenían cómo comer, hicimos las ollas comunes. De ahí yo nazco. Cuando comienza a crecer el vaso de leche, comedores populares, otro frente que nos presenta. Ahí comienza Sendero Luminoso a atacar directamente primero a la organización. Cuando la mujer comienza a crear microempresa, Sendero comienza ya a desprestigiar a la mujer. ¿Y Sendero qué hace? Comienza a matar, por ejemplo, a una de nuestras compañeras para crear el terror. Una de nuestras primeras compañeras fue compañera de vaso de leche, Juana López. Otra de comedores, Emma Hilario, que gracias a Dios no murió. La otra compañera, que fue Pascuala Rosada, que se fue asiliada a Chile, cuando regresó después de 3 años, Sendero se cobró la vida y la mató. Como yo trabajaba, era la segunda, y trabajaba en la organización, automáticamente tuve que salir de mi país o la embajada con mis hijos y con mi marido.
También nos acompaña Julia Tamayo, que es defensora de derechos humanos peruana, es abogada, autora de varios informes de investigación entre 1996 y 2000. Exiliada en España en el 2000, nos ofrecerá también su testimonio personal del conflicto. En la actualidad, Julia también es miembro de Amnistía Internacional.
Fui parte del movimiento de mujeres que reunió activistas de los derechos de las mujeres, feministas, mujeres de los barrios populares del Perú, campesinas, mujeres indígenas. Quizás un testimonio que enlaza la historia de una mujer campesina con la mía pueda retratar el periodo que vivimos. Permítame pues tratar el tema, la historia de Paulina. Soy Paulina, de la comunidad de Quispampa, provincia de Huancabamba, departamento de Piura, en el norte del Perú. En 1992 se produjo una masacre de 7 campesinos de mi comunidad por parte de patrullas del ejército. Les dispararon confundiéndolos con una columna de Sendero Luminoso. Los campesinos vivíamos entre dos fuegos durante el conflicto armado. El ejército y la policía cometieron muchos abusos contra los campesinos. Robos, violaciones de mujeres y niñas. Muchos de los abusos eran encubiertos por las autoridades. Huancabamba fue declarada en zona de emergencia en 1993. Notre
émission touche à sa fin. Nous vous donnons rendez-vous dans une semaine pour continuer à découvrir ou redécouvrir les aspects de ce continent latino-américain. Merci à Béatrix qui nous a livré des infos et merci à Antoine à la technique. Muchas gracias, hasta pronto.
Con mi solita.